À tous, hop, je récupère ça. Comme ça, vous ne me voyez plus derrière. Je vous propose de commencer par la prière, si vous voulez bien. Seigneur, on veut te bénir pour ces temps qu'on vient de passer déjà ce matin. Merci pour ta présence qui est là, qui est fervente au milieu de nous. Et on sait que tu es là avec nous, même si nous ne sommes pas nombreux. Toi, tu es là et tu aimes qu'on te loue. Alors Père, on veut te remettre toute la gloire ce matin, que tu puisses ouvrir les cœurs, que ton Saint-Esprit puisse vraiment parler au cœur, que certains puissent piocher ce qu'il y a à piocher, que tu puisses vraiment te glorifier au travers de ce que je vais pouvoir apporter de ta parole ce matin. Amen. Merci. Il y a quelques semaines, j'échangeais avec un collègue de travail, on parlait du salut. Il me disait que le salut, évidemment, il y croyait, c'est un chrétien, c'est quelque chose qui faisait partie de sa vie, de son espérance, mais qu'il était quand même sacrément embarrassé de savoir que des gens qui se convertissaient sur leur lit de mort pouvaient bénéficier du même salut et de la même grâce que lui qui croyait depuis des années, et je l'espère pour lui, pour encore des dizaines d'années. Et ça, vraiment, ça le perturbait. Il disait, c'est quand même... C'est pas juste, quoi. Moi, ça fait des années que je crois, ça fait des années que je crois au Seigneur, que je fais des choses pour lui, et quelqu'un qui se convertit comme ça 2 minutes avant de mourir, eh ben, il va être sauvé pareil. Bah ouais, ça s'appelle la grâce. Et ça m'a fait penser à la parabole des ouvriers de la 11e heure, qu'on retrouve dans Matthieu 20. Vous savez, on connaît tous cette histoire, hein, cet épisode, où des ouvriers sont payés une pièce d'argent pour leur journée de travail à la vigne, et peu importe qu'ils commencent à travailler du matin ou à 5 heures de l'après-midi, ils sont payés la même chose, qu'ils soient venus pour toute la journée ou pour quelques heures, voire pour une seule heure. Et évidemment, ça en fâche quelques-uns. Parce que forcément, dans notre logique à nous, la rémunération, elle est toujours proportionnelle à l'effort fourni. Il faut qu'on soit payé pour l'effort qu'on a fait. Et si on n'a pas fait d'effort, on n'est pas payé. Ça, c'est notre logique humaine. Mais je ne vous apprends rien si je vous dis que la logique de Dieu, ce n'est pas tout à fait celle-là. Puisque lui, dès qu'on lui demande, eh bien, il nous offre le salut. Parce que sa logique à lui, ce n'est pas une logique économique, c'est une logique de l'amour. Et c'est un amour qui n'est pas proportionnel à notre mérite. On ne fait rien pour mériter son amour. C'est un amour qui est largement donné. Car l'amour, lui, non seulement il ne compte pas, mais il ne se compte pas. Car Seigneur, ton royaume est un bien qui ne se donne pas au mérite. Ton salaire est bien plus qu'une petite pièce d'argent. Ton héritage est plus grand. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler ce matin, c'est de notre héritage. Qu'avons-nous fait de notre héritage? Alors héritage, déjà quand on dit héritage, en règle générale, dans notre société, c'est pas hyper bien vu. Si on sort un peu de l'église, l'héritage en règle générale, il est accusé de perpétuer les avantages des riches, pour lire un peu facilement, de créer des familles de privilégiés. Il peut aussi être pas hyper bon parce que... Il peut nous donner que des dettes, ça peut même être des malédictions, mais il peut quand même, et ça on l'oublie un peu, des fois être un peu bénéfique, puisqu'on hérite aussi des traditions de famille, de notre culture, on hérite un peu finalement de qui on est. Mais là encore, c'est pas vraiment comme ça que Dieu voit l'héritage. Son héritage à lui, il relève les faibles. Il ne constitue pas des familles de privilégiés, il s'adresse à ceux qui n'avaient rien, il s'adresse à tous, et il nous parle de la vie et pas de la mort. Et ça, c'est quelque chose qui change beaucoup par rapport à notre vision de l'héritage à nous. Car notre vision de l'héritage à nous, elle est très liée à la mort. Il faut que quelqu'un meure pour qu'on hérite. Alors que l'héritage de Dieu, il est lié à la vie, car Dieu s'occupe des vivants. À l'époque biblique, je vous fais une petite explication de l'héritage, c'était le mode habituel de transmission de la propriété, à tel point que l'hébreu ne fait pas la différence entre l'héritage d'une propriété, sa possession ou son acquisition par n'importe quel autre moyen. C'est le mot « nochal ». Alors pardon, je ne parle pas hébreu couramment. Ça s'écrit « nachal », pour ceux qui veulent chercher. C'est le terme qui apparaît la première fois dans la Bible, dans Exode 32, au verset 13. C'est Moïse qui livre alors un plaidoyer enflammé en faveur du peuple d'Israël, sur lequel Dieu avait décidé d'abattre sa colère. C'était juste après l'épisode du veau d'or, pour vous resituer. Et Moïse dit à Dieu: « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, « Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. Ce posséderont-là, c'est Nahal. Mais cette notion de l'héritage, elle arrive bien avant ce terme hébreu. Elle arrive dès la Genèse, au chapitre 17, verset 8, quand Dieu a annoncé à Abraham, qui n'était pas encore Abraham, qu'il deviendrait le père d'une grande nation. « Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. » L'héritage, c'était un don du patriarche à ses fils, parfois à ses filles, je vous épargne un peu la loi hébraïque, pour les honorer et pour les soutenir. Le but de l'héritage, c'était vraiment de pourvoir aux besoins et au statut de la famille. La plupart des références à l'héritage dans la première moitié de l'Ancien Testament parlent de Dieu qui donne la terre promise aux Israélites, du Père céleste qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Dieu a donné des terres à chacune des familles du peuple, si bien que les Israélites ne pouvaient même pas y renoncer définitivement, même s'ils les vendaient, elles leur revenaient systématiquement à l'année du Jubilé. Vous pouvez lire ça dans Lévitique. Puisque l'héritage de la propriété familiale est très encadré dans la Bible. Le fils aîné recevait une double part d'héritage, vous lisez ça dans Deutéronome, et en l'absence de fils, les filles pouvaient hériter des terres de leur père. Et s'il n'y avait pas d'enfant, eh bien ça pouvait être un serviteur fidèle ou un parent plus éloigné. En aucun cas, les terres d'un homme ne pouvaient sortir de sa tribu. Il s'agissait vraiment de survie à l'époque. Voilà, ça c'est pour l'époque de l'Ancien Testament. Mais pour nous aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment de cet héritage-là qu'on parle ? L'héritage dont nous parle la Bible à notre égard, il ne se compte ni en propriété, ni en entreprise, ni en bijoux, ni en livret d'épargne, c'est très bien tout ça. Mais ce n'est pas l'héritage de Dieu, ça. L'héritage de Dieu, il est spirituel. Et il est lié à la même chose qu'à l'époque des Israélites. À quoi est-ce qu'il est lié, notre héritage ? Il est lié à notre identité, à notre filiation, comme à l'époque. Ça ne change pas. Je vous propose de lire Nombre, chapitre 27, au verset 4. J'ai dû me tromper de verset. Puisque c'est Tselophade, je vais vous le lire. Je vais essayer de vous retrouver le verset. Je savais bien que ça devait arriver, que j'allais me tromper de chiffre. Alors. Non, en fait, c'est parce que c'est juste le verset 1. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 4. Donc c'est le tout début du chapitre 27. Tselophade, un descendant de Joseph par Manassé, Makir, Galaad et Épher, avait eu 5 filles, Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Elles vinrent se présenter devant Moïse, devant le prêtre Éléazar, devant les princes et toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Elles déclarèrent « Notre père est mort dans le désert ». Mais il ne faisait pas partie du groupe des partisans de Corée qui se sont ligués contre l'Éternel. Il est décédé pour ses propres fautes, sans laisser de fils. Faut-il que le nom de notre père disparaisse de sa famille parce qu'il n'a pas laissé de fils ? Donne-nous aussi une propriété comme aux frères de notre père. » Moi, quand je lis ça, je me dis, mais waouh, quelle audace ! Elles avaient quand même, ces filles, d'aller se poser devant tout le monde, devant la tente de la rencontre, et d'aller réclamer ça, d'aller dire « Oh, nous aussi, on veut des terres, c'est pas juste ce qui se passe. » Qu'est-ce qui leur donne tant d'audace ? Qu'est-ce qui leur donne tant de force ? Eh bien, c'est leur nom. Elles refusent que le nom de leur père ne disparaisse. Cette notion du nom, elle va nous suivre tout au long. Puisque quel est le nom de votre père à vous ? C'est une vraie question que je vous pose aujourd'hui. Quel est le nom de votre père à vous ? Et surtout, est-ce que vous avez envie qu'il disparaisse ? Puisque c'est un vrai risque. Dans la loi hébraïque, tous les fils d'un même père juif ont le droit à l'héritage, peu importe la condition de la mère. Et en acceptant nous, Jésus, comme on l'a rappelé tout à l'heure à la Sainte Cène, on a accepté Dieu comme notre père. Donc, peu importe d'où nous venons, peu importe notre histoire, notre condition, notre héritage nous vient directement de Dieu. Comme les Israélites, c'est la même chose. Et tout comme Abraham, eh bien, nous ne le recevrons pas complètement ici, ici-bas. Nous ne le recevrons pas dans cette vie. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'a pas le droit d'y goûter. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle d'héritage ? Puisque c'est quand même un vaste mot, on a dit, ce n'est pas des bijoux, ce n'est pas des terres, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas de l'argent. Matthieu 5,5 nous parle de la terre entière. Rien que ça, ça c'est un plutôt beau cadeau. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Alors c'est un beau cadeau, mais c'est aussi une belle responsabilité. Jacques 2, au verset 5, nous parle du royaume de Dieu. Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? Je ne vais pas vous citer tous les versets, mais on parle aussi d'une patrie céleste dans Hébreux. Apocalypse nous décrit un ciel nouveau, une nouvelle terre où Dieu demeurera au milieu de son peuple, essuiera leurs larmes et où il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, ni mort. Et 1 Corinthiens 2 au verset 9 le décrit comme ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. Bref, je vous laisserai farfouiller un peu si vous le souhaitez, mais la Bible est pleine de références à cet héritage spirituel que nous recevons en Christ. Car on a beaucoup parlé des Israélites, mais pour nous aujourd'hui, Christ est bien la clé de notre héritage. Jésus, le Fils unique de Dieu, est l'héritier naturel du Père. Souvenez-vous, tout à l'heure, on a dit que les héritiers, le premier-né héritait toujours d'une double part. Et bien Jésus a le droit à sa double part, puisque Dieu lui dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Être co-héritier du Christ, ça signifie que ce qui appartient à Jésus nous appartiendra aussi. Tout ce qui appartient à Jésus nous appartiendra aussi, parce que nous sommes sur le même testament. Éphésiens 1,11 nous confirme bien que en lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Bon, ça c'est un peu compliqué, je vous la donne dans une version en français courant. Ça dit, dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous avait choisis par avance selon son plan, et il réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Donc c'est son choix de faire de nous ses héritiers. C'est comme quand vous arrivez chez le notaire, on vous dit que vous avez hérité, c'est le choix de celui qui vous a fait votre héritage. Là c'est pareil, Dieu nous a voulu comme héritiers. On n'a rien à négocier, c'est acquis, c'est écrit. Notre héritage, c'est la somme de tout ce que Dieu nous a promis dans le cadre du salut. Et on y a naturellement le droit. Ce n'est pas la peine d'aller réclamer. 1 Pierre 1,4 nous décrit cet héritage lui aussi en nous disant que nous sommes nés de nouveau pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous. À vous, à toi Jérémie, à toi Philippe, à toi Romain. Il vous est réservé à vous, il est à votre nom. Et ce que nous dit l'apôtre Pierre ici, c'est que notre héritage en Christ, il est d'abord impérissable. On le sait, on l'a bien vu cet été, tout ce qui se trouve sur terre est en train de se dégrader, de rouiller, de s'effondrer. Mais notre trésor à nous dans les cieux, il n'est pas affecté par l'entropie, il n'est pas affecté par le désordre d'un système. Il est acquis, il est intact, notre héritage en Christ, il est intact. Rien sur terre n'est parfait. Tu l'as redit, Jérémie, le Christ, lui, est parfait. Donc en lui, nous sommes parfaits. Notre héritage en lui est également saint, irréprochable, élevé et pur. Aucune corruption ou faiblesse ne peut toucher ce que Dieu a accordé. Et notre héritage en Christ, il est inaltérable. Nous avons en Christ un bien durable. Dieu ne modifie pas son testament au gré de ses humeurs. C'est pas un homme. S'il a dit que vous avez, vous avez. Il ne va pas changer d'avis parce que vous avez fait une bêtise et il va se dire « Ah non, vraiment, en fait, pas possible. Romain, pas possible, là, il s'est mis en colère. Tu sais quoi, ton héritage, laisse tomber. Je vais le donner plutôt à Marie, elle mérite plus. » Non, ça, c'est pas Dieu. C'est peut-être nous, mais c'est pas Dieu. Parce que notre héritage en Christ, il est réservé. Il est gardé au ciel pour nous précieusement. C'est un cadeau. mais on peut quand même en goûter quelques petits fruits. Et ça, c'est quand même pas mal. Selon vous, quels peuvent être, par exemple, les fruits de notre héritage qu'on peut goûter dès à présent ? Le Saint-Esprit, c'en est un. Il est même dit que c'est qui fait partie de nos arts, de notre héritage. Ça veut dire que c'est la garantie de ce qui nous a été accordé, finalement. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que vous voyez d'autre ? La paix, oui. Le fruit de l'esprit, en effet. Beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus terre à terre. Et on a prié pour ça tout à l'heure. Nos enfants. Psaume 127,3 nous dit que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Dieu nous confie de nouveaux petits êtres humains et il nous donne la responsabilité de les élever pour qu'ils le connaissent et l'honorent. Et c'est une sacrée responsabilité aussi pour les grands-parents. Il y en a quelques-uns dans cette salle. Et combien nos enfants sont beaucoup plus précieux que tous les comptes en banque de n'importe quel temple Lucienne dont nous aimerions hériter. Est-ce qu'on les considère... Oui, Lucienne, parce qu'il n'y avait pas de Lucienne dans l'église, donc au moins personne ne se sent visé. Mais est-ce qu'on les considère vraiment comme tels tout le temps ? Est-ce qu'on se rend compte, même quand ils sont pénibles, même quand ils font du bruit, qu'ils sont beaucoup plus précieux que n'importe quelle somme d'argent qui pourrait atterrir sur notre compte en banque ? On a parlé de l'esprit, on peut parler de la parole de Dieu. Pareil, le psaume 119-111 nous dit que tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai beaucoup parlé du nom du Père. Eh bien, ce nom du Père, puisque Dieu est quand même fidèle à lui-même, il revient dans le Nouveau Testament. On lit notamment dans l'évangile de Jean, quand Jésus prie pour ses disciples. C'est dans Jean 17, au verset 11. « Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné. » Jésus lui-même percevait l'importance du nom qu'il avait reçu de Dieu. Et si Jésus lui-même, on connaît l'importance et le note, combien est-ce que nous, on devrait pouvoir se rappeler et dire « Merci Seigneur pour ce nom que tu m'as donné. » Dieu, en tant que Père, il nous a donné son nom. On l'a reçu. Autant que Jésus. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu cet héritage de notre Père céleste. Romains 8, 17 nous dit « Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Point. Non, pas point. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part à sa gloire. Et là, ça gratte un peu. Parce que dans notre réalité terrestre, c'est facile. Quand on hérite d'un proche, on va chez le notaire, on signe, c'est fait. On a hérité. Dans la réalité spirituelle, on ne peut pas échapper aux souffrances et nous attendre quand même à hériter des bénédictions. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Pour obtenir la possession effective de notre héritage, il faut suivre l'exemple d'Israël. Dieu est le Dieu des générations. Il s'est engagé par alliance à nous donner la terre promise, mais la terre promise comme à des enfants et pas comme à des étrangers. Et il nous la donne à une condition qu'on va lire dans Exode au chapitre 6, les versets 3 à 8. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel, Yahweh. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux Israélites, je suis le Seigneur Yahweh, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. La version d'Arbi dit à partir du verset 7, « Et je vous prendrai pour être mon peuple, et je vous serai Dieu, et vous saurez que je suis l'Éternel, et je vous ferai entrer dans le pays, et je vous le donnerai en possession. » Toute la révélation que j'ai reçue il y a plus d'un an et demi maintenant sur cette question commence justement dans ce petit « et dans cette chronologie de ce verset. Comment Dieu fonctionne ? D'abord, il se fait connaître. Il veut que tout le monde le connaisse, et pour ça, il se montre comme El Shaddai, ce Dieu puissant. Jusqu'ici, souvenez-vous, les Israélites, ils ont connu tous les miracles liés à Abraham, les miracles autour d'Isaac, de Jacob, les interventions extraordinaires dans l'histoire de Joseph. Et beaucoup plus proche d'eux, ils ont eu le buisson ardent, ils ont eu le bâton de Moïse. Clairement, c'est El Shaddai. C'est le Dieu puissant, le Dieu qui se manifeste, le Dieu de miracles. Ça, c'est pour être connu. Une fois qu'on a dit « oui, je reconnais ces dieux », il veut aussi être un Dieu proche. Donc il veut qu'on le connaisse pas seulement comme El Shaddai, le Dieu de miracles, mais comme Yahweh, ce Dieu personnel, ce Dieu d'alliance et de fidélité. C'est lui qui choisit son peuple. Et pour le prouver, eh bien, il annonce qu'il va le délivrer de l'esclavage. Rien que ça. Pour qu'ils sachent qu'il est leur Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte quand même comment Dieu fonctionne par amour pour nous ? Il pourrait se dire, bon les gars, moi je suis Dieu, au bout d'un moment, reconnaissez-moi et c'est bon quoi. Non, non, lui il nous dit, ok, je vais te montrer que je suis Dieu dans ta vie. Je suis Dieu et tu vas le voir. Pour que tu me reconnaisses, je vais faire des miracles dans ta vie et tu verras que je suis Dieu. Et ensuite, seulement ensuite, une fois que chacun a rencontré son El Shaddai, puis a connu la tendresse de Yahweh, alors seulement il nous fera entrer dans le pays promis. Il faut qu'il y ait eu toutes ces étapes-là pour goûter au lait et au miel du pays promis. Cette petite conjonction de coordination, ce petit « et », il change tout. Dieu a fait le choix de nous prendre pour peuple. Ça ne change pas. Il nous dit « je serai votre Dieu ». Ça ne change pas. Mais pour goûter au pays qui nous a été promis et qui a été promis aux générations futures, il faut accepter d'arrêter de voir simplement Dieu comme un faiseur de miracles. Il faut le faire entrer dans notre vie comme un père, comme l'Éternel Yahweh, comme ce bon père aimant. Et ça change complètement l'équation. Tant qu'on ne vivra pas vraiment, réellement, cette réalité de ce Dieu aimant pour chacun d'entre nous, alors on ne vivra pas réellement dans notre identité d'enfant de Dieu. On se contentera d'être un membre du peuple on a un beau cadeau à venir, mais on ne sera pas pleinement les enfants de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on se prive de cette beauté-là, de pouvoir aller se réfugier dans les bras du Père ? Dieu nous dit que nous ne pourrons pas hériter pleinement et vivre dans la terre promise, car ce pays de Canaan, c'est le domaine particulier de l'Éternel. Et il veut le confier à ses enfants, pas à des étrangers qui reconnaissent simplement ses miracles. On sait tous que les démons reconnaissent Dieu. Dieu ne veut pas simplement qu'on reconnaisse que quand il sauve quelqu'un, c'est lui qui le fait. Ça, on peut tous le faire. Dieu veut nous confier sa terre comme à des enfants. Comme vous confieriez votre entreprise ou votre maison à vos enfants. Il faut avoir cette mentalité de bâtisseur de cathédrale. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que nous, on veut bien rentrer dans le pays de Canaan, dans le pays promis, mais on va y faire quoi, en fait ? Parce que c'est bien beau d'y rentrer, mais on va faire quoi ? On va se poser au bord de la plage, bronzer, tranquillou. Est-ce qu'on va y vivre comme de petits locataires sympas, discrets, qui payent un peu l'apéro, mais surtout pas trop encombrants pour le voisinage ? Vous croyez que c'est ça que Dieu veut qu'on fasse dans le pays de Canaan ? Où est-ce qu'il veut qu'on y vive ? En gestionnaire. Je dis pas en propriétaire. Dieu restera toujours propriétaire de ses terres. Mais en gestionnaire. Avec tout ce que ça implique, hein, en termes de multiplication, de fruits et d'héritage pour les générations futures. Car quand on a quelque chose de précieux, on veut en prendre soin pour le confier à la génération qui arrive. Et je reviens à cette mentalité de bâtisseur de cathédrale. Imaginez les gens qui commencent à construire une cathédrale, ils savent très bien qu'ils ne la verront pas construite. C'est pas possible, il faut des générations pour construire une cathédrale. Mais ils ont mis cette première pierre en se disant que ça servira même pas à leurs enfants, mais plus probablement à leurs petits-enfants, voilà, voire à leurs arrière-petits-enfants. Il faut qu'on ait cette mentalité-là aussi dans notre vie. Ce que Dieu nous confie, notre héritage, il n'est pas seulement pour nous, il est pour les générations qui arrivent, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants après nous. Il y a une grande différence entre le droit légal et la possession effective de ce que Dieu nous a promis. Si Israël avait été comme certains chrétiens aujourd'hui, après que Dieu lui ait dit dans Josué « Je vous ai donné le pays tout entier », il se serait aligné comme ça sur la rive est du Jourdain, il aurait regardé vers l'ouest du pays et il aurait dit « Super, c'est tout à nous ». C'était vrai. Légalement, c'était vrai. Mais dans les faits, les Cananéens dominaient toujours le pays. C'était à eux, mais ils n'étaient pas chez eux. Et ça ne veut pas dire que la promesse était fausse. Ça veut juste dire que les Israélites ont dû combattre, car le seul moyen qu'ils avaient de prendre possession de façon effective de leur terre promise, c'était de poser leurs pieds sur le sol qu'ils voulaient prendre. Car Dieu leur a dit, et je paraphrase, « Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, c'est à vous, en pratique, et pas seulement légalement. » C'est trop facile de savoir que légalement, c'est à nous, et de dire « Bon, on verra quand j'en aurai besoin. Peut-être un jour. Puis si j'en ai jamais besoin, bah, c'est pas grave, je le laisserai à mon voisin, ça lui en fera plus. » Non, prenez ce qui vous appartient. Dieu nous offre un héritage immense, mais il faut aller le chercher. Tout commence effectivement par cette position légale. Il faut savoir que nous sommes héritiers. Il faut en avoir conscience, il faut l'accepter. Un héritier qui ignore sa richesse vit comme un mendiant. Il faut accepter que tout est accompli par Christ. La possession de l'héritage ne dépend pas de nos performances, jamais, seulement de notre capacité à nous reposer sur l'œuvre accomplie à la croix. La foi, la croix, est la seule clé d'accès. Et elle s'exerce comment ? En confessant la parole de Dieu et en croyant que les promesses divines sont actuelles. Elles sont toujours oui et amen pour chacun d'entre nous. Deuxième étape, il faut accepter la mort. Dieu a commencé à parler à Josué en lui disant « Moïse, mon serviteur, est mort, et maintenant ?» Dans la vie spirituelle, une nouvelle étape est souvent précédée par une mort. Il faut que quelque chose meure pour que nous puissions passer à l'étape suivante. Moïse a été l'un des plus grands leaders que Dieu a jamais donné à son peuple. Mais ce n'est qu'après sa mort que son peuple a pu entrer dans son héritage. Il faut que quelque chose meure en nous pour qu'on puisse avancer. C'est essentiel. Troisième étape, la dépendance totale au Saint-Esprit pour vivre l'héritage. C'est lui le garant de notre héritage. On l'a dit, il est nos arts, celui qu'on reçoit avant pour être bien sûr qu'on aura la totalité plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec le Saint-Esprit, une dépendance totale au Saint-Esprit ? Eh bien, ça veut dire le consulter pour chaque décision. Et pas seulement le prier le dimanche à l'église, mais lui demander son avis pour notre travail, pour nos actions, pour nos relations, qu'elles soient familiales, amicales. C'est le mettre tout le temps dans la boucle. Il est là, tout le temps, avec nous. Et la preuve tangible que l'on vit notre héritage, c'est l'apparition du fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience. Si on a tout ça, c'est qu'on touche déjà du doigt notre héritage. Vivre en héritier exige de s'éloigner du péché. Pas simplement par contrainte légale, pas parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire, mais par dignité royale. Parce qu'il faut refuser ce qui est indigne de notre statut d'enfant de Dieu. Tout simplement. L'héritage est garanti, on l'a dit. Mais sa pleine manifestation demande une maturation. Le croyant doit se former à l'école de la Bible pour connaître Dieu, du Saint-Esprit pour la comprendre, et de l'Église pour la mettre en pratique dans la communion. Il ne faut pas oublier la troisième étape. C'est ici aussi que tout se joue. Et puis on l'a dit, un héritier, c'est un gestionnaire et c'est un transmetteur. Il s'agit d'utiliser l'autorité spirituelle reçue pour prier, guérir, servir et impacter son environnement. Il faut agir comme un ambassadeur du royaume. Vivre son héritage, ça inclut de le transmettre. Ça passe par l'exemplarité, l'enseignement de la foi aux générations suivantes, et ça peut être des enfants comme des disciples, le partage de l'évangile pour que d'autres entrent à leur tour dans cet héritage. Mais on ne transmet bien que ce que l'on a déjà soi-même fructifié. La parole de Dieu doit d'abord être dans le cœur du parent avant d'être sur ses lèvres. Les générations apprennent plus par ce qu'elles voient vivre que par ce qu'elles entendent dire. L'échec de la transmission qu'on peut lire dans Juges, elle survient souvent quand une génération ne connaît plus l'œuvre de Dieu, parce que la précédente n'a pas su la raconter ou la vivre authentiquement. Et c'est un danger qui nous guette. Transmettre l'héritage inclut de parler vie et destinée sur ses enfants, comme l'ont fait les patriarches, en confirmant les promesses de Dieu sur leur postérité. Et si l'héritage se transmet par notre Père céleste, 2 Timothée 1,5 est un exemple concret de transmission maternelle de la foi. Paul rappelle à Timothée la foi sincère qui a habité d'abord son aïeul, Loïs, puis sa mère, Eunice, avant d'être en lui. Donc, mesdames, on a toutes un rôle à jouer aussi, que ce soit pour nos enfants comme pour nos enfants spirituels. Nous ne sommes pas propriétaires de notre héritage, nous n'en sommes qu'administrateurs. Il faut faire fructifier les dons, les ressources et l'autorité spirituelle que nous avons reçues. Pour le dire un peu vulgairement, Dieu attend un retour sur investissement spirituel. Et si vous ne me croyez pas, balisez la parabole des talents, qui nous montre bien que la peur ou la paresse spirituelle peuvent nous conduire à enterrer nos talents, et c'est une faute grave. On doit tous rendre des comptes de notre gestion, et les ressources que nous avons reçues, elles doivent servir l'avancée du royaume. Que ce soit du temps, de l'argent, des dons spirituels, tout ce que nous avons nous vient de Dieu, et tout doit être mis au service du royaume. 1 Pierre 4,10 nous dit « comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu ». On a tous reçu une grâce spécifique. Il ne faut pas compter sur les autres pour mettre en pratique sa propre grâce. On a chacun la sienne et on doit la mettre au service des autres. 1 Corinthiens 4,2 nous dit « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » On le redit, ce n'est pas une question de force, d'énergie. La première qualité requise, c'est la fidélité, pas le succès apparent. Le succès apparent, c'est des choses du monde. Ce n'est pas ce que Dieu recherche. Et vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais et si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on risque? Finalement, à quoi bon? Puisqu'on l'a dit, la légalité, ce n'est pas pour nous, on doit le faire parce qu'on est des enfants de Dieu, mais si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on risque? Eh bien, il y a des vrais risques à ne pas vivre son héritage. Je vais vous en présenter 4, il y en a sans doute d'autres, mais le premier risque, pour moi, c'est la stérilité, la régression spirituelle. Ne pas vivre dans son héritage, c'est prendre le risque de demeurer spirituellement immature, incapable de passer du lait à la nourriture solide. Comme Israël dans le désert, qui néglige son héritage par incrédulité, par distraction, le risque c'est de ne jamais rentrer dans le repos de Dieu. On reste dans une espèce d'état d'errance spirituelle, on est privé du fruit de l'esprit, on croit, mais c'est compliqué. Comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue, on peut être dans la maison du Père. On est dans la maison du Père, on y a le droit. Mais on ne jouit pas de sa joie. On l'attend, on la quémande. On voit l'héritage, mais on ne s'en saisit pas. On se dit qu'il n'est pas pour nous, qu'on n'est pas d'assez bons croyants, qu'on a trop péché, trop fait d'erreurs, trop fait de bêtises, qu'on n'y arrive pas, qu'on ne prie pas assez, qu'on ne lit pas assez notre Bible, qu'on n'est pas assez aimant, qu'on ne va pas assez à l'église. Bref, vous pouvez rajouter plein de choses après la virgule. Mais ça, je suis désolée de vous le dire, que c'est une forme d'orgueil. Parce qu'on reste centré sur soi, sur ce qu'on a fait, sur sa valeur, sur sa sainteté à soi, sur son mérite, sur sa capacité à être digne. Mais Dieu, il s'en fiche de tout ça. Parce que quand on se concentre sur notre capacité, on ne se concentre pas sur ce que Dieu nous donne gratuitement. Le risque, c'est donc de servir Dieu par devoir religieux, tout en étant amer, jaloux, incapable de célébrer la grâce. Un chrétien dur, critique, jaloux de la réussite des autres, qui sert Dieu par obligation, qui est en train de perdre sa joie, alors que c'est une part majeure de l'héritage. Si un croyant ne vit que de crise en crise, sans paix durable, sans direction claire, alors il n'est pas dans sa terre promise. Il est sauvé, mais il erre. Je vous propose un petit exercice d'auto-diagnostic, si vous voulez bien. Depuis quand est-ce que vous n'avez... Parce que le but, ce n'est pas non plus de nous faire déprimer, hein. C'est quand même de progresser. Depuis quand est-ce que vous n'avez pas vu Dieu agir surnaturellement dans votre vie? Réfléchissez un moment. Et si la réponse est « des années », alors je crois que vous pourriez demander un petit coup de main au Saint-Esprit pour vous montrer quand Dieu est intervenu et que vous n'avez pas su le voir. Acceptez de l'écouter parler. Demandez-lui sincèrement. Deuxième risque, donc le premier c'était la stérilité, la régression. Deuxième risque, la perte des récompenses éternelles. Le salut est un don gratuit. La récompense, on l'a vu, dépend de la fidélité à gérer cet héritage reçu. Retour dans la parabole des talents, le serviteur qui n'a pas fait fructifier son héritage par peur ou par paresse se voit retirer ce qu'il avait. Le principe est clair, on le connaît, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ne pas utiliser son héritage conduit à sa perte fonctionnelle. Si vous n'utilisez pas votre voiture, vous ne saurez plus la conduire. Si vous ne faites plus de vélo, ça va être compliqué quand vous allez remonter dessus. Et bien, c'est le même principe. Si vous n'utilisez pas votre héritage, vous ne saurez plus l'utiliser, vous ne saurez plus faire. Deuxième petit exercice d'autodiagnostic, si vous voulez bien. Je vous propose de lister, soit sur un papier, soit dans votre tête, toutes vos activités, vos ministères, vos investissements sur ces, allez, disons, 5 dernières années. Et à chaque fois, posez-vous la question. Si tout cela brûlait, resterait-il quelque chose d'éternel? Que resterait-il de tout ce dans quoi je m'investis? Le but, ce n'est pas de travailler pour rien. Le but, ce n'est pas de faire le plus possible pour Dieu. C'est d'avoir un investissement durable. Troisième risque, le danger de l'apostasie. Et c'est là le risque le plus grave, c'est de mépriser l'héritage au point de le laisser de côté pour des satisfactions temporaires. On connaît tous l'histoire d'Ésaü, qui a vendu son droit d'aînesse pour un seul plat. La Bible nous dit qu'il a cherché avec larmes à hériter de la bénédiction. Il fut rejeté. Hébreux 12, 17. La repentance ne soustrait pas aux conséquences de nos actes. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous adresse un avertissement assez terrible qu'on va lire dans Hébreux 6, les versets 4 à 12. Alors j'ai une version un peu différente, mais on va prendre celle-ci. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Est-ce que vous êtes prêts pour le troisième petit exercice d'autodiagnostic? Ésaü, il a souvent cette image d'homme méchant, d'homme mauvais qui a tout jeté à la poubelle juste pour son plat. Mais en fait, il a simplement préféré des plaisirs rapides à un bénéfice futur. Quels sont vos plats de lentilles modernes? Est-ce que c'est le confort? Est-ce que c'est le succès professionnel? Des relations personnelles? Une validation sociale? Le qu'en pensent les autres? Qu'est-ce que vous êtes prêt? Pourquoi est-ce que vous êtes prêt à tout abandonner, à mettre la foi de côté? Quel est votre plat de lentilles à vous, aujourd'hui ? ce pour lequel vous avez accepté de faire des compromis. Alors repentez-vous. Repentez-vous de ces plats de lentilles-là. Acceptez les conséquences de vos actes. Et changez de direction. Et Dieu est bon pour nous pardonner. Mais il faut accepter de reconnaître qu'on a péché. Il faut accepter de reconnaître ce pourquoi on s'est vendu. Quatrième risque, c'est la transmission d'un héritage brisé. Un chrétien qui ne vit pas son héritage échoue dans son mandat de gestionnaire. Et ça a des conséquences générationnelles. Si une génération ne s'approprie pas les promesses, elle lègue à ses enfants une religion morte, un vide spirituel. Et spirituellement, un territoire, que ce soit une vie, une famille, une entreprise, peu importe, qui n'est pas occupé par le propriétaire légitime, en l'occurrence ici le Saint-Esprit, eh bien il est laissé vacant. Jérémie 12, 7 nous dit « J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de mes ennemis. » Et ça installe des schémas de défaite ou de malédiction qui auraient pu être brisés par l'exercice de l'autorité du croyant. Vous avez une maison luxueuse, mais vous l'avez laissée à l'abandon. Les fenêtres sont brisées, des squatteurs ont pris les lieux, le toit fuit et le propriétaire légitime dort sur le perron en se disant qu'il n'a pas les clés. Quatrième petit exercice d'autodiagnostic. Quelles sont les pièces de votre maison ? Ça peut être la famille, ça peut être les finances, la santé, le travail. Ça peut être tout ce que Dieu vous révèle. Quelles sont ces pièces de votre maison où des squatteurs se sont installés par défaut d'autorité exercée ? Jésus vous a donné la puissance. Vous l'avez par le Saint-Esprit pour les chasser. Donc faites-les, ne dormez pas sur le perron. Dormez dans votre lit. C'est à vous, c'est votre maison. Bon, l'objectif, c'est quand même pas de vous renvoyer chez vous complètement défait et déprimé. Au contraire, c'est quand même une bonne nouvelle, ce que je vous dis là. Puisque tout comme quand on a un rhume, si on a le nez qui coule, si on a les oreilles bouchées, on se dit qu'on a un rhume, on va faire ce qu'il faut. Là, c'est un peu pareil. L'objectif, c'est d'apprendre à s'auto-diagnostiquer rapidement, spirituellement, pour que nous puissions changer de voie et goûter le fruit de l'esprit. Pour que l'Église grandisse, pour que le royaume de Dieu progresse, puisque c'est notre mandat. Et Dieu ne veut pas que nous mendions auprès de lui une petite miette d'héritage. Non. Et nous ne l'avons pas mérité non plus. Il nous l'a juste donné, simplement, par amour. Et le monde dehors, il demande à ce que nous nous l'approprions. Parce qu'il a besoin de voir la gloire de Dieu. Il a besoin de voir Dieu se manifester, d'abord dans notre vie. Parce que tout commence de l'intérieur, tout commence par vous. N'essayez pas de changer le monde si en vous c'est pas clair. Tout commence en nous, puis dans notre famille, puis dans notre église, dans notre ville, dans notre pays. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, puisque nous avons les moyens d'action. Amen. Je propose de prier là-dessus. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est riche et parce qu'elle est dense. Je te prie que tu puisses vraiment ouvrir le cœur et révéler à chacun là où il peut te solliciter pour changer de voie, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné, Dieu, ton héritage, parce que tu as fait de nous des enfants de Dieu. Pas parce que nous le méritons, mais parce que tu nous aimes d'un amour éternel, d'un amour qui ne se compte pas. Alors, Seigneur, nous ne voulons plus être en position de mendiant. Nous voulons exercer notre autorité d'enfant de Dieu. Et nous voulons vivre pleinement cet héritage. Pardon pour nos plats de lentilles, pardon pour toutes ces fois où nous avons peut-être mis de côté ta parole pour les plaisirs de ce monde. Nous ne voulons pas transmettre une foi brisée à nos enfants. Nous voulons que cette église grandisse. Nous voulons que ton royaume grandisse. Oh Père, montre-nous la voie pour vivre pleinement ton héritage, pour vivre pleinement ta joie et pour que le monde dehors la voie.